4 février. Rue de Montpensier, d'une porte de cette étroite rue silencieuse, j'ai vu aujourd'hui, au crépuscule, sortir une jeune femme. Élégante, souple, furtive, elle s'est arrêtée sous la voûte. Elle portait une épaisse voilette et était enveloppée d'un grand manteau. D'un regard rapide, elle a inspecté le trottoir. S'apercevant que je la regardais en passant, elle a rougi et s'est rejetée brusquement en arrière. J'ai retourné la tête. À ce moment, elle s'est précipitée dans la rue, comme on se jette à l'eau, et elle a filé prestement dans la direction de la place du Théâtre Français. Certainement, cette jolie personne venait d'un rendez-vous. Avec les mêmes précautions, les mêmes peurs, elle était entrée dans cette même maison. Elle avait monté l'escalier. Elle avait sonné à une porte. Elle avait pénétré dans une chambre. Quelqu'un l'y attendait. Elle avait couru à lui. Des bras l'avaient étreinte. Elle avait retiré sa voilette, ôté son manteau, son chapeau. Et puis ensuite, elle s'était dévêtue. Son corps avait senti le contact d'un autre corps. Et elle avait désiré que le temps ne s'écoulât point, que tous les bruits s'arrêtassent, que la vie fût suspendue. Et tout cela parce que des lèvres plaisaient à ses lèvres. 5 février. J'ai reçu une longue lettre de ma mère. Madame Brévan lui a écrit au sujet de la santé d'Antonin Hurtin. Il est vraiment assez malade. Depuis 2 ou 3 mois, il dépérissait. Son embonpoint était tombé, il se sentait fatigué. Aux courses d'automne, il a pris froid. Rien de grave s'il eût été surmené par l'existence qu'il mène depuis 15 ans, par les excès de toutes sortes qu'il a commis. Tout d'abord, il n'a pas voulu se soigner, il a continué de faire toutes les sottises qui lui sont coutumières. Il était réellement seulement un peu préoccupé. Et un jour, Madame Bruvan entra dans l'appartement qu'Antoine occupe qu'Emma Laquais, dans une aile de l'hôtel. Antoine n'attendait pas sa tante, il était assis à sa table et écrivait. Écrire pour Antoine est un fait grave. Madame Bruvan allait se retirer discrètement quand Antoine s'aperçut de sa présence. En la voyant, il fut pris d'un véritable accès de désespoir. Il pleurait, il gémissait. Madame Bruvan, épouvantée, se précipita vers lui. Antoine était en train de rédiger son testament. Le soir même, le docteur Tullier fut appelé auprès d'Antoine. Il le palpa, l'ausculta, l'examina de fond en comble. Sa première ordonnance fut de prescrire un repos absolu, un changement complet d'habitude. À cette condition, Tullier voulait bien épargner à son malade le traitement dans un sanatorium, et il lui avait permis de rester à Paris. Mais Antoine s'engageait à suivre le régime le plus sévère. Antoine, boursier résigné assez aisément, et déjà, il va un peu mieux, mais l'état de neurasthénie où il est réduit demandera des soins assez longs. Telles sont les nouvelles que me donne la lettre de ma mère, mais elle contient encore autre chose. Dans sa réclusion, Antoine s'ennuie terriblement. La pauvre Madame Bruvan s'efforce en vain de le distraire. Oh, ce n'est pas toujours facile. Antoine ne veut recevoir aucun de ses amis actuels. Par contre, et par un caprice de malade, il désirait vivement me revoir et se réconcilier avec moi. Ne consentirais-je pas à oublier ses torts et à aller lui rendre visite? Ma mère me transmet la requête de Madame Bruvan et n'y ajoute aucun commentaire. Elle tient toujours à me laisser libre d'agir à ma guise, mais je sens qu'elle compatit vivement aux inquiétudes de Madame Bruvan. Néanmoins, je ne ferai pas à Antoine cette visite que souhaite Madame Bruvan. Certes, oui, j'ai pardonné à Antoine sa trahison. Je désire sincèrement qu'il guérisse. Mais de là à reprendre des relations amicales avec lui. 7 février. Non, décidément, je n'irai pas voir Antoine Urdin, mais j'irai prendre de ses nouvelles auprès de Madame Bruvane. 11 février. Le portier de l'hôtel du Quai Malaquais m'a reconnu. Comment, c'est vous, monsieur Delbray? Mais oui, madame est chez elle, elle ne sort plus guère depuis que monsieur le baron Antoine est malade. Le vieux Luc, sa casquette à la main, me parle encore tandis que je traverse la rue et que le timbre d'annonce retentit. Dans le vestibule, les deux grands laquais se sont levés. L'un me prend mon pardessus, l'autre me débarrasse de ma canne. Ah, ce vestibule, avec ses colonnes et sa haute tapisserie tendue au fond, je l'ai traversé bien souvent pour gagner le petit escalier qui conduit directement à l'appartement d'Antoine. En suivant le valet de pied qui me précède, je constate que rien n'est changé. Je traverse la grande galerie. Je sais que je vais être introduit dans le salon en rotonde où se tient d'ordinaire Madame Bruvane. Voici la porte qui s'ouvre. Madame Bruvane est là. Elle est seule. Au bruit de mon pas, elle lève la tête de dessus l'ouvrage auquel elle travaille. Elle pousse une exclamation de surprise. Quant à moi, je me sens quelque peu embarrassé. Que Madame Bruvane va-t-elle me dire? Oh, elle serait en droit de me reprocher mon éloignement, car pourquoi l'avoir en quelque sorte rendu responsable des torts d'Antoine envers moi? D'autant plus que Madame Bruvane m'a toujours témoigné beaucoup d'amitié. Quelles seront ses premières paroles? Je me suis approché d'elle et je lui ai baisé la main. Elle me laisse faire silencieusement et me regarde de ses bons yeux où je lis une tristesse préoccupée et comme un timide reproche, pendant que je lui explique que, devant partir prochainement pour Clessy-le-Grand-Val, je suis venu afin de pouvoir porter à ma mère des nouvelles du Quai Malaquais. À ces mots, la pauvre femme m'a pris les mains. J'ai tout de suite compris l'inutilité de mon subterfuge et que je ne saurais pas résister aux instances de Madame Bruvane. J'étais bien décidé à ne pas prononcer le nom d'Antoine et nous avons parlé de lui pendant 2 heures. 12 février. Cette chambre d'Antoine, au jour de sortie, après le déjeuner chez Madame Bruvane, Antoine, tandis que ma mère et sa tante causaient ensemble, m'y emmenait pour m'initier au mystère des courses plates ou pour me faire admirer ses photographies d'actrice. Je la retrouve telle que plus tard elle m'apparaissait lorsque je venais y convenir avec Antoine de quelques parties de théâtre ou de restaurant. Tout y est à peu près à la même place. Voici au mur les gravures anglaises sur les tentures de perse claire. Seulement, aujourd'hui, je n'entends plus dès le seuil la grosse voix joyeuse d'Antoine. Les rideaux des fenêtres sont à demi tirés. C'est maintenant la chambre d'un malade avec son silence et sa demi-obscurité. Madame Bruvane m'avait prévenu que je trouverais Antoine très changé. Comment l'avouer, mais cette pensée qui n'était plus le même m'était plutôt agréable, si j'ose dire. Il m'aurait été pénible de retrouver l'Antoine du voyage en Bretagne, l'Antoine de l'époque de notre querelle. Madame Bruvane n'avait que trop raison. Antoine Urtin est méconnaissable. Quand je suis entré, il était étendu sur son divan. Son gros corps semble dégonflé. Son geste, sa voix sont d'un autre. Cette impression achevait de m'adoucir, et c'est sans rancune que j'essaierai sa lourde main molle. 14 février. Cette transformation d'Antoine est vraiment singulière et n'est pas en proportion avec la gravité de son état, qui, en somme, ainsi que le docteur Tullier ne cesse de l'affirmer à Madame Bruvane, n'a rien de réellement inquiétant. Antoine est quelque chose de plus qu'un malade. C'est un homme trompé par lui-même. Lui qui, depuis l'âge où il a échappé aux soins excessifs de Madame Bruvan, n'avait jamais pris garde à sa santé, lui qui n'avait jamais pensé à ménager ses forces, il éprouve un mélange de surprise, de colère et de honte à voir cette santé lui manquer soudain et ses forces le trahir subitement. Au fond, il souffre d'une déception d'amour-propre. Il se trouve en état de faillite physique. De là, un retour vers les souvenirs de ses années d'enfance, vers l'époque où il était intact pour la vie, et de là, la véritable haine qu'il manifeste pour tout ce qui lui rappelle les abus qu'il a fait de lui-même. Rien de ce qu'il occupait si exclusivement, hier encore, ne semble plus l'intéresser. C'est en lui une sorte de rétrogradation de tout l'être. Et s'il a désiré ma présence, c'est qu'elle est liée pour lui moins à sa vie d'homme qu'à son passé d'adolescent. 16 février. J'ai longuement causé d'Antoine avec Madame Bruvan. Ses observations concordent assez exactement avec les miennes. Nous avons parlé d'abord de la situation médicale d'Antoine. Tullier répond de le guérir de la crise de neurasthénie dont il souffre et dans laquelle le moral est plus atteint que le physique. Madame Bruvan s'est aperçue comme moi de la transformation d'Antoine. Elle a constaté l'aversion qu'il manifeste pour les personnes et les choses de son existence d'hier. À ce qui le passionnait le plus il y a 3 mois, il est à présent complètement indifférent. Il n'ouvre même plus les lettres qui lui parviennent de ses amis de sport et de fête et n'a voulu recevoir aucun d'eux. Sur ce point, la consigne est inflexible. L'idée de revoir des visages connus lui est insupportable. Il entre dans cet éloignement un sentiment de vanité. Il ne veut pas de témoin à sa déchéance corporelle. Il vit comme un reclus. Au fond, il est honteux d'être malade. Il a l'impression d'avoir été tombé. 21 février. Je vais presque chaque jour chez Antoine Hurtin. Il paraît me voir avec plaisir. Nous causons souvent de nos souvenirs de collège. Lui qui, jadis, abondait en histoire de femme, il n'en parle jamais maintenant. Il ne raconte plus aucune de ces anecdotes cyniques et crues qui jadis le délectait et qui désolait Madame Bruvan. Pauvre Madame Bruvan, elle voudrait bien faire quelque chose pour distraire Antoine, mais elle ne trouve rien. Aussi est-elle pour moi pleine de reconnaissance parce que Antoine semble se plaire à ma compagnie. Excellente Madame Bruvan, elle me fait pitié. Elle erre comme une âme en peine dans son hôtel. Elle a renoncé à son occupation favorite. Elle n'ouvre plus ses vieux auteurs latins et grecs, car elle est savante latiniste, Madame Bruvan, et sait fort bien le grec. Elle s'était mise à apprendre ces deux langues dans l'espoir de suivre les études d'Antoine. Les études d'Antoine. N'est-ce pas mené loin, Madame Bruvan, car le baron Hurtin n'est pas un humaniste. Mais elle a continué pour elle seule ce qu'elle avait entrepris en vue de son neveu. Pendant des années, Madame Bruvan a pris chaque matin sa leçon de grec et de latin, ce qui égayait fort Antoine, mais Madame Bruvan a eu bien raison de s'obstiner. Ce travail lui fut une précieuse distraction. D'ailleurs, Madame Bruvan n'a rien d'une pédante. Jamais elle ne fait parade de sa science qui est réelle. Madame Bruvan est la plus simple et la meilleure des femmes, la créature la plus douce et la plus dévouée, malgré son physique impérieux et masculin. Avec l'âge, la légère moustache qui ombrait la lèvre supérieure s'est accentuée. Antoine était sans respect pour cet attribut. « Vois-tu, ma tante, je t'aimerais mieux avec toute ta barbe, disait-il parfois à Madame Bruvan, qui était la première à rire de la plaisanterie. 23 février. J'ai trouvé hier Antoine occupé à regarder des photographies. Elles représentaient un beau yacht appelé le Néréide et qui appartient au prince de Vénesque. Antoine m'a passé ses photographies en me disant « Ma tante s'est mise en tête de louer ce bateau pour m'emmener cet été, faire une croisière de 2 mois en Méditerranée. Il paraît que l'air marin achèvera de me remettre. C'est une idée de tuilier, naturellement, mais cet été, je serai crevé depuis longtemps. » En parlant ainsi, il me pose un piège, mais je demeure imperturbable. Je me suis borné à féliciter notre ancien amiral de son prochain commandement à la mer. 24 février. J'ai reçu une lettre de ma mère qui me rappelle doucement ma promesse de venir passer une semaine avec elle à Clessy. Elle a raison, que fais-je à Paris? J'y mène la vie la plus inutile et la plus vaine. J'ai honte de ce que j'écris chaque soir sur le quartier de Neroli. Il se remplit d'une nomenclature de faits insignifiants. Hélas, si j'y écrivais mes rêves, quelle mélancolie désespérée ne s'y accumulerait-elle pas? Jamais je ne me suis senti le cœur plus vide. Mais dans ce vide, quel ardent désir d'amour subsiste encore. Et cependant, depuis ma rupture avec Juliette, je m'étais bien juré de me résigner à ma solitude. 27 février. Pauvre Juliette! Que j'en somme à lui reprocher. Elle ne m'avait juré ni amour éternel, ni éternelle fidélité. Elle s'est donnée à moi avec simplicité et s'est reprise avec candeur. En devenant ma maîtresse, elle savait bien m'être agréable. En cessant de l'être, elle ne croyait pas devoir me causer un réel chagrin. En ces deux circonstances, il lui semblait agir selon la vie. Alors qu'ai-je donc à lui reprocher? Au contraire, ne lui dois-je pas quelques charmants souvenirs? Le cahier de Neroli a bien le droit d'en retenir quelques-uns, puisque c'est à Sienne que j'ai rencontré Juliette P. Ce fut à Sienne, en effet, que mon ami Robert Néral me présenta. Juliette voyageait sans son mari, escortée d'une vieille femme de chambre. Dès l'abord, elle me plut. Elle était gaie, naturelle, jolie. Elle devait quitter Sienne le lendemain et nous convint de nous retrouver à Vérone, où elle allait passer une semaine et peut-être plus. J'avais faim que Vérone fût sur mon itinéraire. En réalité, je me détournais de mes projets primitifs. Madame P. ne pouvait guère avoir de doute à cet égard, mais elle ne laissa paraître aucune surprise et sembla se féliciter du heureux hasard qui nous permettrait de nous revoir bientôt. C'est de Vérone que nous sommes allés, Madame P. et moi, passer une journée à Vicence. Nous voulions y visiter la Villa Valmarana. Je me souviens qu'il faisait ce jour-là un temps très gris et doucement tiède. La voiture montait la route qui mène à la Madonna del Monte et par laquelle on va à la villa. La vieille Sophie, qui nous servait de chaperon, était assise sur la banquette devant nous. Elle nous considérait avec indulgence, car cela lui semblait une singulière folie que de se déranger pour voir des vieilles pierres et des maisons où nous ne connaissions personne. Sa présence, d'ailleurs, ne nous gênait nullement. Nous n'avions guère, Madame P. et moi, des allures d'amoureux. Dès notre première rencontre, un ton de camaraderie très libre et très aisé s'était établi entre nous. Robert Néral m'avait prévenu à Sienne qu'il n'y avait rien à tenter auprès de Madame P., sinon d'obtenir son amitié. Elle voyageait en Italie pour attendre le retour de son mari, qui avait été obligé par son métier à un assez long séjour en Albanie. Elle aimait beaucoup ce mari, m'avait dit Méral, qui avait ajouté « Oh, du reste, tu sais, il est beaucoup plus beau garçon que toi et que moi. » Je me l'étais donc tenu pour dit, et les relations entre Madame P. et moi étaient celles de deux Français qui se retrouvent à l'étranger, qui ont plaisir à mettre en commun leurs impressions et leurs curiosités, et qui ne sont pas mécontents d'abréger les soirées d'hôtel par un peu de conversation. J'avais donc accepté en ces conditions la compagnie Madame P, et c'était d'un cœur tranquille que je cheminais à ses côtés vers la Villa Valmarana. Notre promenade d'ailleurs risquait fort d'être mouillée. À mesure que nous montions, le ciel s'assombrissait, et quand nous arrivâmes à la villa, des gouttes commençaient à tomber sur les petits nains de pierre dont les figures grotesques ornent le mur qui clôt le jardin et surmonte les colonnes du portail. Ces nains, comiquement gibbeux ou ridiculement trapus, accoutrés à la mode du XVIIIe siècle, amusèrent fort Madame P, et ce fut en riant que nous suivîmes le portier. La villa était inhabitée, et le gardien ne fit aucune difficulté pour nous laisser pénétrer dans les appartements. Les charmantes fresques de Tiepolo, si fraîches et si vives, sont la parure de ces salles meublées à la moderne. Après nous être intéressés suffisamment aux aventures de Renaud et d'Armide, nous nous retrouvâmes dans le jardin, et nous allions regagner la voiture quand le gardien nous ouvrit la porte d'un bâtiment bas qui se trouve non loin de la sortie. Ce bâtiment est une sorte d'orangerie qui se compose d'une longue galerie sur laquelle donnent un certain nombre de chambres plus ou moins meublées et qui toutes sont décorées de fresques tiepolesques. Au milieu de la galerie, un bâton dont les extrémités reposaient au dossier de deux chaises supportait suspendu de magnifiques grappes de raisin. La vieille Sophie s'extasiait sur cette vendange et était demeurée à la contempler en compagnon du gardien avec qui elle avait lié conversation. Pendant qu'ils bavardaient, Madame P et moi avions continué notre visite à travers les chambres. Elle n'avait rien de très remarquable et les fresques qui les ornaient n'étaient pour la plupart pas de la main de Tiepolo. Une, cependant, nous retint. Elle représentait un jardin où s'ébattaient des personnages de carnaval. Au milieu d'eux, une dame vénitienne se tenait debout, toute vêtue de satin blanc et les épaules couvertes de la bahuta de satin noir. Cette dame, qui portait le masque blanc de Venise, avait je ne sais quoi de charmant et d'énigmatique. Quel visage se cachait derrière ce carton léger, nous ne saurions jamais. Était-elle belle ou laide, la dame au masque? Tout en parlant, nous nous étions accoudés à l'appui de la fenêtre qui était ouverte. Elle dominait un humide et doux paysage d'automne. Les nuées du ciel, longtemps menaçantes, se déversaient maintenant abondamment. On entendait la pluie ruisseler sur les feuilles molles avec son bruit mélancolique. La vieille Sophie et le gardien continuaient dans la galerie un colloque animé. Parfois, il y avait un moment de silence, et une odeur de fruits et de feuillage emplissait l'air tiède et mouillé. Soudain, par un mouvement involontaire, mon coude heurta celui de Madame P. Nous nous regardâmes. J'eus l'impression subite, claire et émouvante, qu'un masque venait de tomber du visage de Juliette. Il m'apparaissait, ce visage, comme celui d'un être nouveau et différent. Je compris à ce moment que Juliette n'était pas la Juliette que m'avait décrite mon ami de Val, et dès lors je sus que nos lèvres s'uniraient un jour. Mais la vieille Sophie nous cherchait, et nous repassâmes devant la dame masquée de la fresque. Quand nous sortîmes dans le jardin, il me sembla que les nains et les naines de pierre gambadaient malicieusement sous la verse qui cinglait leur dos bossu. 28 février. En allant voir aujourd'hui Antoine, quel n'est pas mon étonnement de me croiser dans la cour de l'hôtel du quai Malaquais avec Gernon, oui, Gernon, en cachelet de fourrure et en chapeau de paille, que le vieux Luc, le portier, saluait respectueusement comme un habitué de la maison. J'ai eu bientôt l'explication de cette rencontre par Madame Bruvane elle-même. Elle voit assez souvent Gernon, qu'elle a connu chez ses vieux amis les Subagny, et pour qui elle avait depuis longtemps la plus vive admiration. Monsieur Subagny est un des promoteurs de l'avatar mondain de Gernon. C'est lui qui l'a déterminé à fréquenter certains salons et à sortir de la retraite dans laquelle il a longtemps vécu. Gernon a suivi les conseils de Monsieur Subagny. Par exemple, Monsieur Subagny n'a pas pu le décider à abandonner son chapeau de paille et sa fourrure. Gernon s'y est refusé obstinément. Peut-être a-t-il raison. Le monde aime les originaux et un peu de ridicule rend plus piquant le mérite. Madame Bruvane elle-même admirerait moins Gernon s'il avait les mains complètement propres. 3 mars. Je suis depuis une semaine chez ma mère à Clessy-le-Grand-Val. J'y ai retrouvé une fois de plus l'existence que j'y mène à chacun de mes séjours. À Clessy, je loge toujours dans la même chambre. Elle est assez grande et située au second étage de la maison. Une grosse poutre, dissimulée sous une couche de plâtre, traverse en saillie le plafond. Les murs sont tapissés d'un panier à fleurs sur fond blanc. Ce fond d'ailleurs n'est plus très blanc et les fleurs ont quelque peu pâli. Quant au sol, il est carrelé et le carrelage est d'un rouge éteint dont l'effet n'est nullement désagréable à l'œil. Le lit, placé à l'ancienne mode dans une alcôve, est de style empire, mais d'un empire de campagne, sans bronze. Les seuls ornements sont au sommet des quatre colonnettes d'angle, quatre petites urnes à l'antique en bois d'acajou. La literie est excellente et douillette. L'édredon bien gonflé est rempli de plumes d'une heureuse mollesse. La toile des draps est très fine, très usée et sent bon la lessive. De ces draps-là, on n'en trouve plus qu'en province, chez les vieilles gens. De même que l'on ne voit plus guère qu'en province des pendules comme celles que supporte la cheminée. Elle est d'albâtre en forme de borne avec un cadran doré. Elle a l'air d'être en sucre, mais dans sa fadeur douceâtre, son timbre résonne avec une maigre petite voix aigrelette. C'est une vraie pendule de vieille fille. Ce que j'aime le mieux de cette chambre, ce sont ses fenêtres. C'est vers elles que je me tourne quand je suis fatigué des gravures d'après Poussin et de la pendule en sucre. De ces fenêtres, je domine une petite cour qui ouvre sur le mail. Ce mail est planté de très beaux et de très vieux tilleuls. Au printemps, l'odeur de leur floraison est délicieuse. En été, leur verdure ombrage les vieux bancs de pierre. En automne, leur feuillage est d'une noble couleur d'or. En hiver, les troncs et les branches forment une élégante dentelle végétale. Au-delà du mail, on découvre des jardins, et par-delà les jardins, des prairies qui bordent la rivière et sa ligne de peupliers. Ces dernières, ces peupliers que le soleil se couche, et j'ai assisté parfois de cette chambre à de magnifiques spectacles. Ces soirs-là, ma chambre devient une royale domaine. Chaque matin, ma mère monte me souhaiter le bonjour et me demander si j'ai bien dormi. Elle est déjà debout depuis longtemps lorsque je m'éveille et elle revient de quelques messes matinales. Elle a dit, avant de monter, que l'on m'apporte mon petit déjeuner. C'est l'heure où nous causons le mieux et le plus intimement. Nous parlons du passé, du présent, quelquefois de l'avenir. C'est à ces heures que j'ai parfois envie de demander à ma mère si elle ne regrette pas l'existence qu'elle a choisie. C'est à ces heures que j'ai été tenté souvent de lui dire que son sacrifice avait été inutile, que je suis toujours le même, avec les mêmes désirs, les mêmes incertitudes, les mêmes mélancolies. Pauvre mère qui rêvait ma transformation, elle voulait peut-être que je fusse prêt aux plus ardentes destinées. Elle attendait de moi l'aveu de quelque grand événement, mais hélas, je restais muet. Personne encore n'a pris sa place dans mon cœur et dans ma vie. Quand nous avons ainsi causé quelque temps, ma mère me laisse pour descendre auprès de madame de Préjarry. Les soins dont elle entoure sa vieille amie l'occupent jusqu'au moment du déjeuner. En attendant que le repas soit servi, je me tiens d'ordinaire dans la petite bibliothèque qui se trouve au rez-de-chaussée de la maison. En été, cette pièce est délicieusement fraîche. En hiver, on y allume, en mon honneur, un grand feu de bois. Je m'y chauffe en lisant ou en écrivant. La bibliothèque de madame de Préjarry n'est pas très bien fournie, mais le meuble qui contient les volumes, le plus souvent dépareillé, qui la compose est charmant. C'est une large armoire de style Louis XVI, peinte en gris et couronnée de corbeilles de fruits sculptés. Derrière le grillage des panneaux s'alignent quelques bons vieux livres reliés en veau écaille. Il y a là une collection de pièces de théâtre. Comment ces antiques brochures sont-elles venues là, je ne le sais trop, mais c'est à elles que je dois d'avoir fait connaissance avec le répertoire du XVIIIe siècle. Quand je suis là de Dancourt et de Dora, je feuillette quelques relations de voyage ou quelque autre ouvrage démodé. Ainsi, aujourd'hui, j'ai consulté un traité d'hydraulique dû à la plume de M. de Bélidor. Mais je sens que je n'aborderai jamais les œuvres complètes du cardinal de la Luzerne qui m'offrent généreusement leurs 5 tomes brochés en papier jaspé. Nous déjeunons en tête à tête, ma mère et moi, dans la grande salle à manger au mur marbré, comme les couvertures de la Luzerne. Madame de Préjarry ne paraît pas à table et on la sert dans sa chambre. Quand je ne suis pas à Clessy, ma mère déjeune avec elle. On n'ouvre la salle que pour moi. Même en hiver, elle conserve une odeur de fruits. Ma mère a auprès d'elle une petite table servante sur laquelle sont posées les assiettes. La cuisine est excellente. La vieille Justine, parfois, apporte elle-même le plat qu'elle a particulièrement soigné et attend, avec une feinte modestie, les compliments que l'on n'a pas de lui adresser. Ensuite, je retourne dans la bibliothèque fumer mon cigare, tandis que ma mère va aider madame de Préjarry à s'installer au salon. C'est là que, mon cigare fumé, je monte saluer madame de Préjarry. J'aime beaucoup ce salon. Il a 2 fenêtres qui donnent sur la place du marché et par lesquelles on aperçoit le gros clocher carré de l'église Saint-Étienne. Le papier de tenture est blanc à dessin doré. Au mur, 2 portraits se font face. L'un est une fort belle toile dans la manière de l'argilière et représente un magistrat à grande perruque, le mortier à la main. L'autre est l'œuvre d'un barbouilleur quelconque et montre l'effigie d'un militaire en perruque aussi et en cuirasse, mais il est entouré d'un admirable cadre précieusement sculpté. À part une bonne console ancienne, le mobilier n'a rien de remarquable. Les nombreux fauteuils sont recouverts de velours d'Utrecht jaune. Madame de Préjarry occupe un de ces fauteuils, placé en toute saison au coin de la cheminée. À l'accoudoir repose la canne dont elle se sert pour marcher. Auprès d'elle, une petite table à ouvrage pour son tricot. Madame de Préjarry, tout âgée et malade qu'elle soit, est encore charmante. Elle a une figure avenante et ridée. Elle a l'air gaie et bon. On ne croirait pas que cette femme souffre depuis de longues années d'un chagrin qui la ronge. Madame de Préjarry pleure encore, comme au premier jour, la mort de la fille qu'elle a perdue, cette Cécile dont je connais de si attendrissant portrait. La chambre de madame de Préjarry, où, hors ma mère, personne ne pénètre, est pleine des souvenirs de cet enfant. Ses jouets, ses robes, ses petits bijoux de jeune fille sont précieusement conservés. Madame de Préjarry entretient avidement sa douleur, mais de cette douleur elle ne laisse rien paraître. Ma mère en est la seule confidente et l'unique témoin. Une fois dans son salon, assis sur son fauteuil d'Utrecht, Madame de Préjarry est une admirable vieille dame. Elle rit et plaisante volontiers. Elle semble encore s'intéresser à la vie des autres. Elle a d'ailleurs beaucoup d'esprit. Je m'attarderai avec plaisir auprès d'elle, mais Madame de Préjarry craint toujours d'ennuyer et de contraindre, et c'est elle-même qui m'engage toujours à aller prendre l'air et à tâcher de me distraire un peu. Elle ne veut pas, surtout, que je me croie obligé de subir les visites qu'elle reçoit chaque jour l'après-midi. Aussi, lorsque le temps est supportable, sortons-nous, ma mère et moi, à cette heure-là. Il n'y a guère à Clessy-le-Grand-Val que deux promenades à faire, et il faut choisir l'une ou l'autre. Ma mère ni moi n'avons de préférence pour l'une des deux, et nous nous décidons indifféremment pour la Grande Côte ou pour le canal. La Grande Côte est une belle route qui sort de Clessy par une magnifique allée de platanes et qui aboutit à une montée assez rude d'où l'on découvre le panorama de la ville que reproduisent le plus volontiers les cartes postales. Quant au canal, où il ressemble à tous les canaux, il est bordé d'arbres et traversé par des ponts de pierre en dos d'âne. L'une de ses rives est fréquentée par les voitures, l'autre est un simple chemin de halage. La marche est assez agréable le long de cette eau miroitante et plate. Parfois un gros chaland, tiré à la corde par des hommes courbés ou par un vieux cheval, y avance doucement. Sa panse ventrue frôle l'herbe du bord. Quand il passe, il laisse derrière lui une odeur de cuisine et de goudron. Telles sont nos promenades journalières à ma mère et à moi. Parfois, nous nous asseyons quelques instants sur un talus de la route ou sur le parapet d'un pont. Nous restons ainsi, sans parler. Le plaisir d'être ensemble nous suffit. Puis, après nous être reposés, nous reprenons le chemin de Clessy, et ma mère se retire dans sa chambre jusqu'au dîner. Quelquefois, avant le dîner, je ressors faire un tour dans Clessy. J'aime cette heure des petites villes de province. Les rares réverbères sont allumés. Les passants se hâtent dans les rues presque désertes. On entend le bruit des volets que l'on clôt. Les vitrines des quelques magasins sont éclairées. Le bocal rouge et le bocal vert du pharmacien resplendissent. À cette heure, j'aime à rôder dans les petites rues de Clessy. J'imagine ma vie à jamais fixée là. Il n'y a pas de lampe dans la salle à manger chez Madame de Préjarry. On pose à chaque bout de la table deux antiques candélabres d'argent. Chacun porte trois bougies, mais on n'en allume jamais que deux. Ma mère a fait un peu de toilette en mon honneur. La vieille Justine, même si elle a confectionné un plat extraordinairement réussi, ne paraîtrait pour rien au monde le soir dans la salle à manger. Le dîner, pour elle, est un moment important. Elle le dirige de loin et demeure auprès de ses fourneaux. Ma mère en a pris à côté d'elle la petite table pour les assiettes. Le service est fait par Eugénie, la femme de chambre. À la lumière, la salle à manger est d'une mélancolie autre que le matin. Après le déjeuner, nous allons dans la bibliothèque. Ma mère me regarde fumer. Ma mère n'a jamais pu s'accoutumer à ma cigarette ou à mon cigare. Elle est toujours sur le point de me dire « Mais jette donc cela !» comme si j'étais encore un collégien. Et elle considère les volutes de ma fumée avec une telle désapprobation que je me mets à rire. Elle comprend et rit aussi. À 9 heures, ma mère va dire bonsoir à Madame de Préjarry et s'enquérir si elle n'a besoin de rien, puis elle ne reparaît plus. Quant à moi, j'ai le choix de rester à lire dans la bibliothèque ou d'aller achever ma soirée au cercle, car il y a un cercle à Clessy où se réunissent ces messieurs. On y boit des bocs en faisant quelques parties de whist ou d'écarté et en racontant les potins du jour. Comme je ne trouve pas ces réunions très divertissantes, je préfère regagner ma chambre et me mettre au lit. Telle est ma vie à Clessy et telle je l'ai menée depuis une semaine que je suis là. Quelquefois, j'éprouve à cette existence un peu de désœuvrement. Mais cette fois, il n'en est pas ainsi. Le temps ne compte plus pour moi. Les heures s'envolent rapides et légères. Ma mère me parle, je cause avec Madame de Préjarry, je me promène le long du canal ou sur la grand-route, je lis ou je fume dans la bibliothèque, sans m'apercevoir du moment où je suis de la journée. Tous ces actes coutumiers, je les accomplis dans une sorte d'inconscience. Tout ce que je sais, c'est que quelque chose est changé en moi. C'est qu'une pensée nouvelle a détruit toutes mes autres pensées. C'est qu'un seul songe a remplacé tous mes songes. Il me semble que je suis entré dans une existence inattendue, que ma vie date seulement de quelques jours, du jour où je l'ai vue et où, dès le premier regard, je l'ai aimée. Car j'aime. Comme c'est singulier que les plus grands et les plus graves événements de la vie, et en est-il un de plus considérable et plus prodigieux que d'aimer, se produisent avec tant de simplicité. On leur rêverait quelques mystérieuses préparations. Ils devraient être précédés d'éclairs précurseurs, de signes préalables. D'étonnantes appréhensions devraient avertir de leur approche. Bon, pourquoi pas une apparition d'étoiles dans le ciel, pourquoi pas quelques mouvements de la terre et des eaux. À défaut de ces manifestations, au moins quelques pressentiments forts et secrets qui donnent à tout une couleur particulière. Mais non, avant cette rencontre, qui aurait été l'heure décisive de ma vie, rien ne pouvait m'en faire deviner la venue. Qu'éprouvais-je auparavant ? Depuis quelques mois, un sentiment de mélancolie et d'inquiétude, une certaine impression d'anxiété et d'attente. Et l'existence continuait, monotone et régulière, et j'en notais par désœuvrement les petites circonstances sans intérêt sur le capier de Pompeo Neroli. Rien d'anormal ne se passait en moi et autour de moi. Cependant, quelque chose d'extraordinaire allait s'accomplir. Oui, comment se faisait-il que le jour où mon destin m'allait être révélé, je fusse le même que la veille? Je m'étais levé comme je me lève chaque matin, je portais le même vêtement, j'avais les mêmes pensées, et pourtant j'étais sur le point d'être favorisé d'une merveilleuse félicité. Je touchais à cet instant de toute vie où lui est offerte la chance unique de réaliser son plus profond désir. Nous attendons tous cette minute où la face de l'amour se tourne vers nous. Et c'est dans une parfaite inconscience de ce qui allait arriver que je suis sorti de chez moi. J'ai pris une rue après une autre, j'ai flâné en pensant à n'importe quoi. C'est ainsi que je me suis dirigé vers le quai Malaquais pour aller dire adieu à Antoine Hurtin. Et toutes les choses étaient dans leur ordre accoutumé. L'eau coulait comme d'habitude entre les berges. Les vieux murs sculptés du Louvre se dressaient. Luc, le portier de Madame Bruvan, avait sa casquette ordinaire. La cour de l'hôtel présentait son aspect accoutumé. Le timbre annonça ma venue. Comme j'étais en avance, j'ai demandé d'abord à voir Madame Bruvan. En pénétrant dans le salon, je n'ai rien ressenti de particulier. Sur le canapé, à côté de Madame Bruvan, une jeune femme était assise avec qui Madame Bruvan causait avec animation. Évidemment, ma présence les dérangeait un peu. Madame Bruvan m'a tendu la main et m'a nommé à l'inconnu. Madame de Lérins m'a salué aimablement. Son aspect ne m'a causé aucune émotion. Je prenais peu de part à la conversation et je cherchais une occasion de me retirer et de monter chez Antoine. Néanmoins, j'ai compris vaguement que Madame Bruvan n'avait pas vu cette personne depuis plusieurs années, qu'elle venait de faire un assez long séjour en Amérique et qu'elle revenait en France pour s'y fixer. Elle comptait s'installer à Paris, y louer un appartement et le meubler. Elle aimait les bibelots et les objets anciens. À ce moment, Madame Bruvan m'interpella. Très au courant de ces choses, je ne refuserai pas de guider sa jeune amie et de l'éclairer de mon expérience. Je m'étais levé et, tout en répondant à Madame Bruvan que j'étais à la disposition de Madame de Lérins, je m'inclinais devant elle. En la regardant, je n'éprouvais aucun trouble. Ce ne fut qu'en montant l'escalier qui conduit dans l'appartement d'Antoine que j'eus l'impression qu'il venait de survenir dans ma vie quelque chose d'extraordinaire. Brusquement, un visage me réapparut. Je tressaillis. Oui, c'était bien, ses beaux yeux hardis, sa bouche un peu épaisse et mollement souriante, son nez délicat et fin, oui, c'était bien le visage de Madame de Lérins, mais comme soudain transfiguré. Il était le même, mais cependant différent. Il prenait à mes yeux un sens nouveau. Je m'étais arrêté de monter et je me retins à la rampe. Un violent battement de cœur m'avait saisi. C'était donc ce visage que j'allais aimer. Depuis que je suis à Clessy, ma certitude s'est confirmée. À chaque minute, je suis plus sûr de mon amour. Pas un instant, l'image de Lord de Lérins n'est absente de ma pensée. Toutes les indécisions de mon cœur ont pris fin, tous ces désirs ont maintenant un but, et j'éprouve en même temps une grande terreur et une grande joie. Lord de Lérins, m'aimerez-vous jamais? Votre ardent et beau visage se penchera-t-il sur le mien? Réaliserai-je en vous le souhait de mes longues années d'attente et de solitude? Ou demeurez-vous un fantôme insaisissable et décevant, douloureux et lointain, qui ira rejoindre ceux qui peuplent déjà mes rêves? Est-ce le bonheur ou la peine qui vient à moi avec vous? Qu'aurais-je à écrire chaque soir sur le livre de Neroli? Quelle page va tourner pour moi la destinée, pareil à cet énigmatique monstre bicéphale, à cet amphisbème symbolique dont la marche inverse et double est à la fois une menace et une promesse, et qui, sur le souple parchemin, présente son signe augural aux conjectures de mon âme anxieuse et de mon cœur superstitieux ?